Kasha throws for the end zone. Olsen, touchdown! Smith scores, and the Carolina Panthers win in overtime.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans votre nouvel épisode du Poundcast de Panthers FR. Guillaume au micro, comme d'habitude, pour animer cette émission, au cours de laquelle on va revenir sur une victoire des Panthers obtenue aux dépens des Denver Broncos dimanche dernier. Une émission que je vais avoir le plaisir d'animer, comme d'habitude, avec Thomas. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Guillaume. Bah écoute, ouais, c'est ça, petite victoire du côté des Panthers, la quatrième de la saison. Donc voilà, on va un peu débriefer tout ça. On était face à une équipe de Denver qui avait le même nombre de victoires que nous avant le début du match. Et puis bah, on va débriefer un peu ça, quoi.
Oui, on s'attendait à un match, on va pas se mentir, assez compliqué à regarder, avec deux attaques qui, depuis le début de la saison, étaient quand même en grosse difficulté. J'avais relayé ça avant le match, mais il me semble de mémoire que Denver donc était la pire attaque de la ligue avec moins de 15 points marqués par match, et c'est pas la prestation de dimanche qui a amélioré cette moyenne. Et du côté des Panthers, je crois qu'on devait être autour de la 25e place avec quelque chose comme 19 points de marqués, donc on s'attendait pas à avoir un feu d'artifice offensif, et clairement le début de rencontre a confirmé tout ça avec des échanges de punt et des drives assez courts, jusqu'à un petit peu cette conversion en quatrième tentative des Panthers dans leur propre moitié de terrain sur un fake punt, avec cette course de Sean Chandler, je crois, qui gagne juste ce qu'il faut de yards pour avancer. Et à partir de là, on a senti quand même un semblant de dynamique offensive des Panthers, en tout cas un petit peu plus que du côté de Denver, avec donc un premier touchdown de Darnold pour DJ Moore. Denver derrière en plus punt, mais avec un fumble de Blackshear, se retrouve en position d'égaliser tout de suite. Mais la défense tient bon, force un field goal pour les Broncos. Un dernier joli drive avant la pause permet aux Panthers de mener 10-3. Au retour des vestiaires, c'est la même chose, plus ou moins. Les Panthers qui continuent à prendre de l'avance, 17-3, puis 20 et 23-3 même pour Carolina. Et à partir de là, voilà, les Panthers ont géré tranquillement. Denver inscrit un touchdown en fin de match, mais relativement anecdotique. Et un score final donc de 23-10 pour les Panthers. Thomas, qu'est-ce que tu penses de cette victoire ? Notamment offensivement, hein, face à la défense de Denver, qui, autant l'attaque est en galère, la défense est tout proche de ce qui se fait de mieux en NFL actuellement, peut-être top 3, on va dire, aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire de Carolina ?
Bah écoute, c'est une victoire voilà, qu'on pouvait un peu imaginer, même si bon, j'ai fait un petit pronostic avant le match. Je ne voyais pas spécialement gagner, mais pour autant, offensivement, ça a plutôt bien roulé. On a eu une connexion entre Darnold et DJ Moore, voilà, c'est comme tu l'as souligné sur le débrief du match. Donc, enfin, c'est quand même étonnant. Hein, voilà, on n'a pas vraiment de connexion qui s'effectue avec les quarterbacks avec DJ Moore, sauf quand c'est Sam Darnold. C'est voilà. D'ailleurs, il y a une stat, je crois, avec lui sur les passes de plus de, enfin sur les réceptions de plus de 50 yards. J'ai plus exactement la stat en tête, mais faut que je la retrouverai. Mais globalement, non, voilà, c'est une attaque qui a assez bien fonctionné face à la défense de Denver, qui est assez bonne sur la saison. Donc ouais, non, globalement, voilà. Après, je veux dire, voilà, comme je l'ai signalé en début de podcast, on était sur deux équipes qui commençaient avec un bilan égal en termes de victoire. Donc voilà, il y a toujours un peu le spectre de jouer un peu moins fort, de pas se donner à fond pour essayer de gratter une place à la draft. Donc c'est une performance qu'il faut mettre peut-être un peu entre guillemets, mais pour autant, non, ça a assez bien tourné, quoi.
Ouais, alors la draft, on en ira peut-être un mot tout à l'heure. Je pense clairement pas, moi je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je vais pas le répéter une nouvelle fois, mais les joueurs jouent vraiment pour gagner, il n'y a pas de tanking, je pense, encore plus avec un head coach qui joue pour sa place la saison prochaine éventuellement. Ce que je te propose, c'est qu'on commence à regarder rapidement en défense, parce qu'il y a peut-être un peu moins de choses à dire, tant l'attaque des Broncos, comme on le disait, est étonnamment mauvaise cette saison quand même. C'est un petit peu quand même la grosse surprise. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de la prestation défensive des Panthers, qui limite donc ces Broncos à 10 points, dont un touchdown en fin de rencontre?
Bah écoute, globalement, bah comme tu dis, enfin voilà, c'est une attaque de Denver qui est un peu à la ramasse très clairement sur la saison, avec un Russell Wilson qui paraît très clairement perdu par moment. Ça tourne pas comme il l'aurait voulu, je pense, très clairement. Mais voilà, on a quand même eu des bonnes performances à peu près sur la défense. Globalement, avec déjà un bon match de Brian Burns, qui dépasse du coup les 10, enfin, qui est égal à 10 sacks sur la saison. Et un petit fumble forcé en prime, donc non, voilà. Enfin, globalement, c'est une défense aussi qui a bien fonctionné face à une équipe de Denver qui est en difficulté en termes offensifs. Après, voilà, il y a ce petit touchdown. Il y avait eu cette action là avec le touchdown annulé sur la réception. Je sais plus quel receveur des Broncos c'était, mais voilà, ça a failli se transformer en touchdown. J'étais un peu étonné sur le coup, mais voilà, globalement, non, ça a tourné, ça a tourné.
Ouais, globalement, il n'y a pas de. Je te rejoins assez, hein, il n'y a pas grand-chose à dire. Juste préciser, tu parlais de Brian Burns, il me semble qu'il a d'ailleurs été nommé joueur défensif de NFC de la semaine. C'est assez rare pour être signalé cette saison que les joueurs des Panthers soient mis en valeur. Il y a eu une petite blessure en fin de match, mais ça me semble pas trop trop grave. En tout cas, j'ai pas vu revenir de choses depuis dessus, donc on va voir. En plus. On dira un mot tout à l'heure, mais il va y avoir une semaine de repos pour se remettre, donc pour le moment pas trop d'inquiétude. Pour le reste, voilà, on a vu une défense qui s'est comme d'habitude appuyée sur ses cadres. Franky Louvu qui a fait un bon match, Jeremy Chin aussi, Jesse Horn qui a gagné son duel à distance avec Patrick Surtain, on peut dire. Et voilà, du côté des petites stats à retenir éventuellement. On pourra noter que du côté des Broncos, il y a une belle moyenne pour Latavius Murray, hein, qui court 92 yards en 13 portées. Donc ça fait une moyenne de 7 par course. Mais il faut voir qu'avec ça, il y a un gros run de 50 yards. Donc une fois qu'on l'enlève, alors je sais que c'est un peu triché avec les stats quand on fait ça, mais la moyenne reste raisonnable. Donc même la défense contre la course a été plutôt solide, donc clairement en défense, pas grand-chose à reprocher ou à retenir de particulier pour moi en tout cas.
Non, non.
Et je te propose donc qu'on passe du côté de l'attaque, où là, on va a priori avoir un peu plus de choses à dire. Et avant de revenir sur Sam Darnold, on peut dire que Carolina a quand même trouvé la formule qui l'a fait gagner, à savoir du jeu au sol, beaucoup de jeu au sol, et surtout faire lancer un maximum de 20 passes à son quarterback. Bon ben voilà, c'est la stratégie qui a été mise en place. Ça a marché contre Atlanta, notamment. Ça avait marché contre les Bucks un petit peu plus tôt. Et ben ça refonctionne encore aujourd'hui. Avec 41 portées de balles pour le duo Foreman-Hubbard. Et près de 180 yards au sol encore, donc c'est la formule qui marche, quoi.
C'est ça, voilà, globalement, je veux dire, avec les problèmes qu'on a au poste de quarterback, voilà, on se repose beaucoup plus sur le jeu de course, et voilà, c'est quelque chose qui marche. Et effectivement, on remarque sur la saison, en fait, quand on utilise moins les running backs, on se rend compte qu'effectivement, on avance peut-être un peu moins bien. Donc non, on a un bon duo, donc autant essayer d'en profiter, pour essayer d'avancer, quoi. Parce que en plus surtout que enfin il y a quand même de l'impact en termes de course, parce que ouais, pour Foreman, on est quand même à 4,7 yards par course, donc c'est bon, quoi, très clairement.
Ouais, et puis c'est vrai que on le sent, hein, c'est vraiment allez, on va dire un Derrick Henry du pauvre, peut-être, on peut dire, avec vraiment une constance sur toutes les courses. Hein, je parlais de Latavius Murray qui fait 90 yards avec une grosse course de 50. Là, c'est vraiment que des courses, enfin, en tout cas beaucoup de courses qui font à chaque fois 5, 6, 8 yards, des fois plus encore. Et voilà, c'est vraiment une force constante pour le jeu des Panthers, quoi. Et c'est assez étonnant de se dire qu'il a fallu le transfert de Christian McCaffrey pour que vraiment les Panthers jouent avec Deonta Foreman. Et on le voit, 6 matchs depuis le départ de McCaffrey et 4 fois Foreman a fait plus de 100 yards au sol. Donc voilà, c'est une formule qui marche. Je ne suis pas persuadé, c'est peut-être moi le petit reproche que je ferais ou le petit point d'interrogation que j'ai, j'avais déjà eu l'occasion de le dire, je ne suis pas persuadé que sur le long terme ce soit une formule qui puisse fonctionner ou en tout cas sur laquelle on peut vraiment se baser. Parce que on l'a vu, et on va parler de Sam Darnold dans un instant, mais on a vu que dès que les Panthers ont dû s'appuyer plus sur leur quarterback et demander plus à leur quarterback, ils ont été limités, quoi. Ça s'est vu au niveau du résultat.
C'est ça, puis on retombe un peu sur les limites qu'on a entre guillemets. Poste de quarterback, enfin, là ça fait quelques saisons qu'on a essayé de faire du bricolage à ce poste faut maintenant on se rend bel et bien compte qu'effectivement on a besoin d'un très bon calibre à ce poste parce que nécessairement ça fait des problèmes et au moment où on en a besoin on réussit pas nécessairement à avancer comme on le voudrait et c'est comme ça qu'on se retrouve à perdre des matchs et à avoir des saisons quelque peu moroses en partie.
On s'était pas enflammé sur PJ Walker après ses deux belles prestations quand il avait pris le poste de titulaire. On va pas s'enflammer non plus, je pense que tu vas me le confirmer, sur Sam Darnold, qui rend une fiche correcte, on va dire, de 11 sur 19 pour 164 yards, un touchdown à la passe, plus un touchdown au sol dans le plus pur style Sam Darnold, avec un fumble, pour si vous l'avez probablement vu, mais il échappe la balle sur l'engagement sur les 2 yards et en fait se couche sur le ballon et ensuite enchaîne 3 roulades sur le côté comme on faisait quand on était petit et pour rentrer dans la end zone comme ça, donc c'est magnifique, mais au-delà de ça quand même, qu'est-ce que tu as pensé toi de la prestation de Sam Darnold? Est-ce qu'il t'a rassuré par rapport à ce qu'il avait montré la saison dernière, ou alors est-ce que t'en attends plus pour te prononcer?
Écoute, globalement, on connaît un peu le personnage maintenant. On a beaucoup tiré à boulet rouge l'an dernier sur lui. Clairement, j'ai pas changé spécialement d'avis. Voilà, c'est un peu comme avec PJ Walker. Il a réussi à faire un bon match, pas d'enflammade, parce qu'on sait très clairement que ça peut redescendre très très vite. Mais c'est comme tu disais, enfin globalement en fait son match, enfin son touchdown à la course résume un peu tout ça, dans le sens où voilà, on a du pas très bon et des fois un peu de bon, donc voilà globalement non, pas d'enflammade sur le cas d'Arnold.
Ouais, je te rejoins, j'ai pas non plus changé drastiquement d'avis sur lui. Je vais quand même, pour lui apporter un peu de crédit, préciser que j'ai trouvé qu'il avait été un peu plus à l'aise dans la poche. Il faisait plus confiance à la ligne offensive qui, encore une fois, a été très solide. En tout cas, il a beaucoup plus confiance que Baker Mayfield, par exemple. Il a fait des très beaux lancers. Je pense, alors il y a bien évidemment cette grande passe en profondeur de 50 yards sur DJ Moore, mais même sa passe de touchdown dans le fond de la end zone vers le même DJ Moore est bien touchée, hein, parce que Patrick Surtain n'est pas loin en couverture. Il y a aussi une autre passe encore vers DJ Moore, tu parlais de la connexion qui se fait bien, on en a l'illustration là, mais une passe où pareil, il a vraiment très longtemps pour lancer, et finalement il trouve DJ Moore, je crois qu'il doit y avoir un gain de 40 yards sur la passe, ou pas loin. Donc, y avait quand même un petit peu de mieux. Après, très clairement, on va attendre de voir ce qu'on peut voir de lui sur les prochains matchs. On parlait de DJ Moore, donc, qui termine avec 4 réceptions, 103 yards, un touchdown. Laviska Shenault aussi, qu'on a un petit peu plus, qu'on a encore vu dans le line-up. Globalement, du côté des receveurs, est-ce que tu retiens d'autres choses que ce qu'on a mentionné?
Oh bah écoute, enfin globalement voilà, on a DJ Moore qui nous fait un bon match. J'ai essayé de retrouver la stat, j'ai toujours pas réussi. Mais non voilà, c'est enfin comme tu dis ouais, Cheno, c'est un peu toujours la même utilisation sur laquelle on retombe et c'est un peu dommage je pense. On pourrait peut-être essayer de varier un peu plus. Bon après ça va peut-être arriver sur la fin de saison parce qu'on a remarqué qu'avec avec notre cher coordinateur offensif, ben des fois il y a un peu de temps pour apprendre. On a vu ça notamment avec Dante Foreman. Mais enfin voilà, et puis non, enfin globalement, en termes de receveur, ouais, non, je suis assez d'accord avec les points que t'as soulignés, quoi.
Ouais, parce que Cheno, tu le disais, effectivement, il fait deux types de tracés, hein, grosso modo, il fait des screens et des jet sweeps, donc alors quand ça surprend, ça marche bien. Le problème, c'est que quand la défense y est préparée, on l'a vu contre Baltimore notamment, ben, ça fonctionne beaucoup moins bien. Je dirais qu'Ian Thomas, on le voit un petit peu plus ces dernières semaines dans le jeu de passe. Bon, c'est pas toujours très très efficace, mais voilà, on le revoit un petit peu plus. Bon, peut-être un peu de confiance à ce niveau-là. On sait hein, que Ben McAdoo aime bien impliquer les tight ends. On en avait parlé en début de saison. Et là, ça semble revenir. Mais globalement, je pense pour conclure, dire, tu vas me dire si tu es du même avis, mais c'est plutôt une bonne prestation offensive. On le rappelle, la défense de Denver sur le papier c'était quand même très costaud, ouais. Et bah c'est appréciable de voir une sortie comme ça, même si, comme on le disait, on attendra confirmation, quoi.
C'est ça, tout à fait.
Confirmation aussi attendue du côté des équipes spéciales, où là pour le coup il y a eu du bon. Et du moins bon, j'ai envie de dire. Alors, tout d'abord, le très bon, J.J. Johnson, qui, à l'occasion de ce match, a démarré sa 221e rencontre comme Panther. Il égale au passage le record de John Casey, le kicker de Carolina dans la fin des années 90 et début des années 2000. Pour le reste, alors on a eu ce fake punt, je mentionnais tout à l'heure, qui a vraiment lancé l'attaque. Hein. Il y a eu un fumble recouvert sur un kick-off, juste après le touchdown roulade de Darnold. Pour le moins bon, il y a quand même un fumble donc, sur le punt et un onside kick non recouvert en fin de match, sans trop d'importance, certes, mais quand même. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Est-ce qu'il y a un fait de jeu des équipes spéciales qui t'a marqué plus que les autres? Et est-ce que tu as une explication peut-être sur ça? Parce que c'est vrai que jusque-là, les équipes spéciales avaient été plutôt pas mal cette saison. Donc est-ce que tu vois une raison pour tout ça ou c'est juste un manque de chance?
Ouais, pour moi, c'est globalement, on est quand même globalement sur du manque de chance. On a quand même eu des bonnes actions d'un point de vue de cette équipe spéciale. Après, ouais, il y a ce fumble qui arrive en fin de match sur l'onside kick qui a pas été recouvert. Au début, on récupère le ballon et puis, bah, en fait, c'est l'équipe spéciale adverse qui réussit bien à l'arracher. C'est des petites choses à corriger, mais globalement, ouais, c'est quand même un faute à, enfin, entre guillemets, faute à pas de chance, non? Peut-être pas quand même. Mais globalement ouais non ouais, je c'est une erreur de parcours sur certaines actions mais rien de dramatique je pense.
Et puis j'ai pas précisé mais Di Pinheiro 100% sur ses coups de pied donc voilà, il continue sa très belle saison. Il aura malheureusement pour nous que manqué deux coups de pied dans le même match et à des moments importants. Avant de passer à la conclusion, on va dire un mot sur le coaching, parce qu'il y a quand même une stat qui est que depuis sa prise de fonction, bah Steve Wilks est toujours invaincu à domicile pour Carolina en 3 matchs. Alors certes, il n'a pas joué des équipes avec des super bilans, mais quand même, il faut préciser que Matt Rhule, je crois qu'il a fait quelque chose comme 5-15. Du coup, moi j'ai envie de te demander, est-ce que Steve Wilks, jusque-là, a montré assez de choses pour être conservé comme head coach des Panthers la saison prochaine? Ou alors, est-ce que tu penses qu'il faut encore attendre de voir ce qui reste sur la fin de saison? Voilà, quel est ton avis sur Steve Wilks aux Panthers la saison prochaine? Est-ce que tu y crois?
Bah écoute, globalement, pour revenir sur une de tes propositions, on va attendre un peu la fin de saison pour voir comment ça s'est passé sur les derniers matchs. Après, j'avoue que ça me choquerait peut-être pas plus que ça qu'il soit là l'an prochain, dans la mesure où, ben, comme on en avait déjà parlé, c'est un natif des Carolines, du coup, il est assez bien implanté, il est assez bien implanté dans la région. Et puis surtout, il a remis un peu d'ambiance dans le vestiaire, un peu de ce qu'on sentait que c'était morose sur la fin matroule. Donc globalement, voilà. Après, comme je disais, ça va dépendre des derniers matchs, ça va dépendre de pas mal d'autres facteurs, ça va dépendre un peu aussi des plans de David Tepper, mais globalement, je serais peut-être pas plus étonné que ça, on va dire.
Bah, clairement, il a assez vite récupéré le vestiaire, hein, d'après tout ce qu'on peut lire, pendant que Matroul règle gentiment ses comptes par interview interposée là depuis qu'il a signé à Nebraska, mais on sent qu'il y a une dynamique clairement qui est différente. Ouais. Je crois qu'on a déjà mentionné, hein, depuis quelques émissions. Je pense aussi que le calendrier qui reste, et on va y revenir dans un instant, va jouer un rôle. En tout cas, la façon dont les Panthers se comportent sur cette fin de saison va très probablement jouer un rôle sur les chances de Steve Wilks d'être conservé. Après, jusque-là, c'est difficile de lui reprocher grand-chose. Il a, à part le match à Cincinnati où les Panthers collectivement sont passés au travers, bon, ben, ils ont été plutôt dans tous les matchs jusque là. Ouais. Donc c'est ça aussi, hein, ça peut jouer. Donc et puis ça dépendra aussi de qui est disponible, qui est intéressé, comment ça se passe. Mais à suivre. Moi, comme toi, je serais pas surpris qu'il soit conservé. Surtout si, après le retour de bye week, donc dimanche prochain, les Panthers s'en sortent bien sur le calendrier qui reste. Alors, je te donne les 5 matchs qui restera aux Panthers, donc à partir du 10 ou 11 décembre, par là. Il y a d'abord un déplacement à Seattle, ouais, avec un bilan de 6-5. Puis, 2 matchs à domicile face à Pittsburgh et Détroit, qui ont tous les deux, à l'heure actuelle, un bilan de 4-7. Et on terminera par 2 matchs de division à l'extérieur. Un premier à Tampa, qui est actuellement leader de division NFC Sud, avec un bilan de 5-6. Et un dernier match face aux Saints, enfin chez les Saints en l'occurrence, avec un bilan de 4-8. Une seule équipe dans le positif.
Ouais.
Qu'est-ce que toi tu vois sur cette fin de saison, comment tu imagines les Panthers conclure, et éventuellement, en fonction de l'alignement et des autres scores, est-ce que tu penses qu'il y a une chance d'aller en play-off ?
Alors, les play-offs, très clairement, je n'y crois pas. Après, sur la dynamique de fin de saison, ouais, là, comme tu dis, on affronte une seule équipe qui a un bilan positif, c'est Seattle. Pour moi, Seattle va prendre le match parce qu'ils sont quand même dans une bonne dynamique. Enfin, je veux dire, sur la saison, vis-à-vis de ceux à quoi on pouvait les attendre, c'est meilleur qu'attendu. Du coup, je dis que c'est meilleur qu'attendu. Je vais peut-être me faire engueuler par certains fans des Seahawks, mais enfin, c'est l'impression que j'ai. Après, voilà. Enfin, globalement, sur cette fin de saison, ouais, je nous vois potentiellement en prendre 2. Et perdre le reste, mais enfin voilà, comme je disais, on est face à des équipes avec un bilan, enfin 4 équipes avec un bilan négatif, donc globalement c'est assez dur à prévoir, parce que surtout avec 2 matchs de division, c'est toujours un peu difficile à pronostiquer, donc voilà, je me mouille pas trop, je nous vois à peu près à 2 victoires.
Je pense que les Panthers, honnêtement, peuvent gagner les 4 derniers. Je dis pas que c'est à coup sûr, hein, voire même à Seattle, on ne sait pas, parce que tu parles d'une bonne dynamique. Alors, ils ont bien démarré, mais là, ils viennent de perdre 2 rencontres, dont une en prolongation face aux Raiders, avec, je crois, 300 yards de leur running back Josh Jacobs. Donc, voilà, on sait que les Panthers aussi aiment bien s'appuyer sur les running backs. Donc, honnêtement, je ne suis pas surpris si les Panthers en prennent 3 ou plus, on va dire. Et en fonction des résultats, si tu bats Tampa et la Nouvelle-Orléans, notamment, tu peux aller chercher le titre de division, hein. dans le même temps, les Bucks, il y a un Bucks Saints ce week-end qui va être intéressant à suivre pour les Panthers. Mais derrière, les Bucks, ils jouent quand même San Francisco et Cincinnati. Donc c'est pas ces deux matchs loin d'être gagnés. Donc voilà, si tu réussis à assurer sur les quatre derniers matchs, bah t'as moyen d'aller chercher la division, je pense. Hein. Donc alors est-ce que Carolina serait une belle équipe en play-off ? Je suis très loin de dire ça, hein, et de le penser. Mais dans les faits, les play-offs, ils sont pas si loin que ça hein, quand tu regardes.
Ouais, non, c'est sûr. Bah, surtout avec une division assez ouverte. Et comment dire, avec une équipe de Tampa qui réussit pas nécessairement là où on les attendait. Il y a peut-être un peu de place à se faire, mais j'avoue que j'ai quand même un peu de mal à y croire, entre guillemets, sur cette fin de saison.
Eh bien, on verra ce qui lancera. On fera pas d'émission la semaine prochaine, puisque forcément c'est la bye week. On se retrouvera donc très probablement après le match de Seattle pour voir ce qu'il en est. Et derrière, ben on verra avec les fêtes de fin d'année et les différents emplois du temps. Je ne sais pas trop quand est-ce qu'on pourra re-enregistrer une émission. Peut-être que ce ne sera que l'année prochaine. On verra. Mais en tout cas, voilà, on sera de toute façon, nous, sur Twitter d'ici là ou sur le serveur Discord hein, qui est toujours disponible. Et c'est comme ça qu'on va conclure cette émission. Merci Thomas d'avoir enregistré avec moi.
Bah écoute, merci à toi.
Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. Ciao.
Ciao.